Bonjour à tous, bienvenue sur le 88e épisode de Comics Weekly. Je suis avec Mister Anemone.
Oui, bonjour à tous.
Et avec King Ed.
Oui,
qui n'a pas eu peur.
Salut les gens. Voilà, ouais.
Tu es revenu malgré ton bisutage prononcé de la semaine dernière.
Je n'ai pas été dégoûté, ça va, je reviens.
Donc cette fois-ci, puisque deux heures n'ont pas suffi, nous allons faire trois.
Voilà, je déconne. Et on va s'acharner sur toi uniquement.
Oh mince.
C'est-à-dire tu vas nous faire toutes les reviews que tu peux et même qu'on veut.
Les trucs que j'ai pas lu, c'est ça?
Mais tu feras des reviews en direct en même temps que la lecture et tu les liras pour les auditeurs.
Ah oui, ça peut être sympa ça comme concept, le comics lu à l'antenne.
En anglais, avec des voix qui vont bien.
Oh là là. Comics pour les aveugles, donc.
Exactement. Ils avaient fait ça pour Daredevil, je crois, pour les premiers numéros du reboot. Il y avait des versions MP3 du comics.
C'est bien. Le truc, après, c'est qu'il faut arriver à décrire la scène. Ouais. Le problème, c'est que la description de la scène est un petit peu différente selon chaque personne. Forcément, on y met sa sensibilité ou pas. Donc...
Bon, donc on va pas faire ça. Hein. Je vais pas avoir à lire... Je veux pas lire à AVX, hein. Non, surtout pas.
Non, mais c'est déjà fait, c'est con. Non, mais on avait prévu pour toi peut-être Deadpool Max 2. Bon, allez, trêve de plaisanterie, nous allons commencer par les news, comme toujours. Alors, cette semaine, c'est encore une fois assez calme dans les news, mais on a pas mal d'infos sur plusieurs produits dérivés, et notamment les premiers visuels des Lego Avengers.
Eh oui.
Et franchement, c'est super mignon. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé les petits designs comme ça, et je craquerais bien pour une petite boîte ou deux, quand même.
Alors, je sais pas si ils vont les sortir en France, ou si les... je sais pas, si la licence va...
Ouais, aucune idée. Bah, en même temps, le film sortant en France, s'il fait un bon score en France, il y a fort à parier qu'il capitalise sur la licence qui marche. Maintenant, en import, il y a toujours moyen de les choper. Hein,
c'est... Ouais.
Surtout que, là, on peut les prendre en VO, les Lego, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci de compréhension. Ça va.
Mais ils vont sortir tout Marvel ou c'est juste les Avengers?
Alors là, c'est les Avengers du film.
Ah d'accord.
C'est vraiment avec le design du film. Et d'ailleurs, quand on regarde les boîtes, on peut se demander s'il n'y a pas quelques petites fuites quant au scénario, pas proprement parler du film, puisque l'on voit sur une des boîtes Loki avec le cube cosmique dans la main.
Ah oui, voilà. Ça, on pouvait s'en douter.
On pouvait s'en douter, ouais. Avec la fin de Thor... La scène après générique où on voyait déjà le Cosmic Cube en fait et avec un Loki qui justement tournait autour, donc on pouvait s'en douter effectivement.
C'est vrai que jusqu'à présent on savait qu'il y avait Loki dans le film, là on a une idée de l'ampleur de la menace quoi.
Ouais,
un peu plus en tout cas. Après reste à savoir si c'est pas juste un mélange de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais je pense que c'est foncièrement centré sur le film, donc forte chance qu'on voit Loki avec ce cube cosmique et que les Vengeurs vont en chier.
Bah, c'est surtout un condensé, à mon avis, au cinéma de Ultimates volume 1 et 2, et puis voilà.
On verra. Mais bon, enfin, toujours autant d'attente.
Ouais, bah, ça vient bientôt maintenant, la sortie, là, c'est dans un mois, donc on va vite être fixé, quoi.
Ouais, ça c'est cool. Pendant qu'on est sur le sujet des Lego, j'aurais oublié d'en parler la semaine dernière. On a vu les premiers teasers pour Lego Batman numéro 2.
Le jeu.
Je sais pas si vous les avez vus.
Oui, si, j'avais vu la bande-annonce. Mais du coup, on aura les autres membres un peu de DC. J'ai vu qu'il y avait Superman et...
Ouais, notamment, voilà, Superman, Lego. C'est quand même la classe.
Là. Ouais, franchement. Je l'imagine très bien, d'ailleurs.
Donc, moi, j'avais adoré le premier. Je pense que le 2 va être aussi bon. Franchement, avec tout ce petit humour Lego en plus. Et chose marrante, on a des Lego qui parlent.
Ah oui, alors ça c'est une nouveauté pour les jeux Lego.
Parce que la plupart des Lego ils font des bruitages, c'est tout.
D'accord.
Voilà, donc si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est fun. Et voilà, pareil, ça j'ai hâte que ça sorte parce que c'est le genre de petit jeu agréable.
Ouais, voilà, c'est moins dark que Arkham City par exemple.
Ouais, c'est sûr, mais pour les finir à 100%, faut prendre un peu de temps quand même. Ça demande de la patience. Ce qui, va faire crier dans les chômeurs, mais les jeunes d'aujourd'hui non plus.
Ah.
Ne nous le rendons pas.
Oh bah, nous non plus, hein. franchement, attends, on n'est pas les rois de la patience, hein.
On n'est pas les rois de la patience, mais je sais que je suis assez patient pour essayer de terminer un jeu à 100%.
Ah bah alors moi,
si le jeu m'a pas plu.
Ouais, mais c'est un jeu qui peut m'intéresser aussi. Faudra qu'on échange nos gamer tags pour jouer en coop.
Ouais, voilà. Ouais, carrément, puisque j'ai une Xbox 360 depuis pas longtemps. C'est-à-dire que je l'ai branché hier, en fait. Donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, tu vois. Vraiment.
Bah oui, bah je me disais, tiens, j'avais oublié qu'il y avait une Xbox. Ah d'accord.
Voilà. On continue dans les news. Alors, une news totalement insolite et improbable. Accrochez-vous bien à vos sièges, sauf si vous la connaissez déjà. Et bien sûr, l'effet de surprise n'en sera que diminué. C'est beau ce que je dis.
Je vais m'accrocher à mon siège, mais je suis sur mon lit, hein, donc
accroche-toi à tes couvertures. Alors, si tu veux, tu peux même te faire une petite maison de couverture pour te protéger, car tu vas être choqué jusqu'au
D'accord.
plus profond de toi-même. T'as vu comment je tease le truc quand même?
Ouais.
Alors, c'est la folie des comédies musicales actuellement, on le sait, on a eu du Batman, du Superman, on nous en sort à toutes les sauces. Eh bien, imaginez le concept le plus fou que l'on puisse faire en comédie musicale qui a rapport avec le comics.
Thor.
Eh bien non, c'est bien pire que ça, Mars Attacks.
Oula, Mars
Ah,
Attacks. D'accord.
Et oui, Mars Attacks débarque en comédie musicale, enfin, débarque. En tout cas, ils sont en train de préparer le projet. Ce sera produit conjointement par Tops et IDW
Ah
pour
ouais,
la comédie
logique.
musicale. Donc là, vraiment, les distributeurs de comics auront vraiment des parts dans cette comédie musicale. Ce sera écrit et produit par John Lehman.
Ok.
D'accord, de c'est Tony Chou.
Tony Chou, entre autres, ouais.
Ouais.
Voilà, donc, bon, ça peut être franchement sympa.
Et la grande question, c'est est-ce qu'il y aura Tom Jones dedans? Parce que sinon, ça vaut pas le coup, quoi. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils arrivent à avoir Tom Jones, mais.
Une image mentale de sa tête d'un coup, donc forcément j'ai
Ah
rigolé.
bah oui, mais c'est classique, quoi. Mars Attack, c'est Tom Jones, quoi.
Enfin, quand j'ai vu cette news passer, j'ai halluciné, quoi, franchement, c'est.
Mars Attack, ça a été quand même considéré comme le gros déclin de. Parce que c'est Tim Burton, hein, si je dis pas de bêtises. Et voilà, ça a été la période où
Alors que pourtant son film est très
Ah,
très
moi
bon.
j'ai.
Mars Attacks est très très bon.
Oui, mais moi aussi j'ai bien aimé quand je l'ai vu quand étant petit, mais
C'est pas la
je sais
planète
qu'il y a
des
eu
singes.
mauvaise presse, quoi. Ah,
C'était l'anti-Independence Day qui était sorti à peu près en même
Bah,
temps.
bien sûr, ouais, c'était complètement ça.
C'était génial, quoi. Le chien meurt dans Mars Attack.
C'est terrible d'ailleurs.
Voilà.
Ouais, mais c'est justement, enfin pour moi, son déclin, c'est plutôt la planète des singes, quoi. Qui quand même
Ouais,
une putain
la
de
planète des
grosse
singes.
bouse.
Là, c'était très triste. Hein.
Ah oui, non, puis, enfin, je veux dire, le film a ni queue ni tête, quoi. Surtout quand on voit qu'il n'est même pas capable lui-même de donner une explication pour cette scène finale. Quand même, donc c'est là qu'il y a un problème.
Cela dit, j'ai vu pire, j'ai vu les origines de la planète des singes et c'est une daube sans nom. Et
Eh
je
ben moi
comprends
j'en ai
pas, il y a eu
entendu.
de
Ah
très
moi
bons
j'en ai
échos.
entendu que du bien, mais bon, c'est pas du Tim Burton là par contre.
Ah oui, non, mais c'est une merde absolue. Je comprends pas, c'est bon.
Ah, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça quand même mieux que le Tim Burton.
On en reparlera hors antenne.
Voilà, hors antenne, ouais. On
Eh
va
bien
lancer
écoutez, je
les
le regarderai
passes.
prochainement et puis on en discutera tous ensemble.
Voilà, c'est ça.
Et on vous fera un spécial, non je déconne. Peut-être pas faire des spéciaux sur n'importe quoi. Je crois que c'était tout ce que j'avais en news. Aviez-vous quelque chose d'autre?
Bah, il y a juste eu Corwin en a parlé dans sa news, mais ils ont révélé un des Spider-Man de la mini-série Spider-Man,
Ouais.
et c'est effectivement Spider-Man, mais
Ah.
de la période de l'univers classique, d'après
Donc
le design.
notre Peter Parker 616, quoi.
Voilà, normalement. Et donc il reste toujours une silhouette noire et on ne sait pas encore qui ce sera. Et voilà,
2099.
ou peut-être le Ultimate, mais on ne sait pas.
Ou peut-être tout simplement Ben Reilly, enfin pas Ben
Peut-être.
Reilly, Scarlet Spider, je veux dire,
Ouais, c'est ça,
crossover.
peut-être que ce sera juste dans l'univers 616, un crossover, voilà, c'est ça.
Bon bah, je sais pas, moi je vois bien un mélange de tout quoi pour fêter l'anniversaire. Ce serait, je
Voilà.
pense, ce qui aurait de plus sympa et ce qui ferait plaisir à tous les fans.
Bon, enfin, moi personnellement, étant fan, je m'en fous complètement, mais bon, on verra.
On verra bien, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Pas mal de choses qui débarquent sur les plateformes de téléchargement. On a notamment Mad qui a sa propre application sur iPad. Voilà, il y
Une
avait
application
notamment.
complètement folle! Voilà, là, je viens de te faire la pub.
J'avais vu autre chose aussi, mais je la retrouve pas. Bon, cette fin, voilà. Pour les gens qui s'intéressent au digital, bah, y a de l'offre en tout cas.
Ok.
Ouais, est-ce qu'il y a de la demande? Parce que je sais pas
C'est
si.
bien la question que l'on se pose tous. C'est bien que je me
Est-ce que
pose.
les gens s'intéressent vraiment à ça, quoi? Ou est-ce que c'est pas une espèce d'obsession des éditeurs en ce moment de conquérir le digital, mais de se faire la guerre du digital un peu tout seul, quoi? Genre, ce sera qui a la plus grosse sur le digital, mais est-ce qu'il y a vraiment une demande des gens?
Ben oui, mais on ne sait pas puisqu'on n'a pas les chiffres.
Eh bien voilà, merci Steve.
Non mais c'est vrai, hein, franchement c'est un petit peu le problème. Vu qu'on n'a pas de chiffres, on peut pas juger quoi.
Il y a quelques, enfin moi j'écoute un podcast d'une émission américaine sur justement c'est un gars qui tient un comic shop et en fait avec Comixology il gagne de l'argent quand les gens ils achètent leurs œuvres digitales sur le lien de son magasin en fait. Donc il touche un petit peu quand même dans son magasin physique sur la vente du digital et il disait qu'il y a il y avait quand même des gens qui achetaient comme ça. Mais ça changeait pas non plus. C'est pas comme ça qu'il allait faire fortune grâce à ça. Et il y avait quand même beaucoup plus de gens qui achetaient en vrai, quoi. Mais
bah, tant mieux que ça se développe quand on peut avoir différentes offres, c'est bien. Maintenant, bon, comme on l'a toujours dit et qu'on va continuer de le répéter, hein, les prix sont trop chers dans l'ensemble.
Oui.
Et $2 pour un truc que tu ne tiens pas forcément vraiment en main et que tu ne peux pas prêter, c'est vraiment trop cher. Quand c'est que $2. Et puis bon, on voit bien cette dernière tentative de Marvel d'offrir à quiconque achète son AVX1 le numéro spécial développé uniquement pour tablette. C'est bien la preuve qu'ils essayent d'attirer les gens. Donc finalement, s'ils offrent directement ce premier numéro, c'est pour essayer d'appeler les gens, de leur dire regardez, il y a ça qui arrive et qui est un petit peu nouveau et essayez. Si le truc marchait vraiment de tout lui-même, je pense qu'il n'aurait jamais offert ça. Il l'aurait vendu à pièce, quoi.
Ouais. Il y a un petit truc sympa aussi, c'est sur j'ai vu sur le site de Marvel, toutes les semaines, il y a un comics qui est mis gratuitement à disposition. Ça c'est pas mal, il peut y avoir parfois voilà, à la pause du midi, tu te dis ah, je vais lire un comics qui est gratos sur le net.
Et légalement surtout.
Et légalement voilà, ils font des offres sympas.
Non, c'est pas. J'imaginais Kinghead à midi en train de sur internet. Je fais, ah, hey, qu'est-ce que je vais me prendre là? Ah, tiens. Et alors, je tiens à vous dire que j'ai reçu moi un mail de Nono.
Ah.
Qui nous dit la chose suivante: make a lot of money using your computer. Merci Nono, tu as été spammé et tu nous as tous spammé. Merci.
Il me sera ravi de le savoir grâce au Comics Weekly.
Ben oui.
Voilà,
ben oui. Je crois que là c'est l'info qui va bien.
Eh bien, ça reste de la news néanmoins.
Et je
attention au spam.
Voilà. Hein, c'est pas spoiler, c'est attention spam. Spam.
N'importe quoi.
On passe aux reviews peut-être.
Ouais, on commence par les reviews, mais on va commencer par la grosse sortie de la semaine. On peut pas faire autrement. C'était le truc ultime, la sortie de chez Zinscope. Non, je déconne. Le AVX numéro 0.
Et le AVX numéro 1, bien sûr. Non, on plaisante, le AVX numéro 1 n'est normalement pas disponible.
Oui, on n'en dira pas plus.
On parle la semaine prochaine.
Le AVX donc 0 est écrit par Brian Michael Bendis pour la première histoire et Jason Aaron pour la deuxième. Donc la première se centre sur Scarlet Witch, la deuxième sur Hope. Donc forcément, chacun gère un petit peu son univers. Et c'est Frank Cho qui est au dessin. Bon.
Voilà.
On va dire tout de suite que c'est peut-être pas le meilleur travail de Frank Cho.
Moi, j'ai pas été particulièrement choqué, hein, personnellement. J'ai déjà vu du Frank Cho de ce niveau-là, puisque j'estime que Frank Cho, récemment, n'a pas été à son meilleur niveau, de toute façon, globalement.
Disons qu'il y a des visages qui sont un petit peu ridicules sur certaines images, mais... Et puis bon, Hope, qui a 15 ans et qui a, voilà, une énorme poitrine, qui a l'air d'avoir 25 ans, et ça fait un peu bizarre, mais... Et bon, ça, c'est voilà, c'est le style du dessinateur aussi. Hein.
C'est bien de prévenir tous les gens qui, éventuellement, aurait l'idée de se tripoter de regarder.
Oui,
vous êtes
non,
pédophile.
Non.
Vous êtes pédophile, les gens. Non, on vous le dit.
Elle n'est pas majeure.
C'est mal parti si ça dérape comme ça dès le départ. Alors déjà, on a un petit rappel de qui sont les personnages hein, sur la première page. Et donc, on voit que dans les Avengers, il y a énormément de monde et dans les X-Men, ils sont 6. Ça m'a fait franchement rigoler. J'ai vu ça, j'ai fait bon. Bah, je pense que le combat, il est vite gagné, hein. Je sais pas, ça vous a pas choqué?
Oui, j'avais pas fait gaffe. Effectivement, maintenant que tu le dis.
C'est-à-dire qu'on vous présente...
Alors, il y en a deux qui sont sur une ligne.
Bah, ils sont au milieu, bah, c'est Beast et Wolverine. Hein.
Bah oui,
ils sont mais, pas décidés encore.
On nous présente quand même Cyclope, Hope, Emma Frost, Magneto, Colossus et Namor. Namor déjà, enfin bon, on va dire du côté des X-Men, parce qu'il vit avec eux sur Utopia, mais il n'y a plus que ces gens-là chez les X-Men apparemment.
Ah bah c'était l'extinction il y a pas longtemps. Hein.
Je sais pas, moi j'avais entendu dire que Storm était resté avec Cyclope, que Psylocke aussi, mais bon, apparemment ces gens-là ne sont pas assez importants.
Bah, tu l'avais pas noté sur ton agenda.
Attends, j'ai pas compris.
Attends, Extinction Agenda.
Mais c'est vrai, quand on prend cette page, ça fait un peu comme un jeu d'échecs, en fait. Et là, c'est sûr que les X-Men se font battre, quoi. Ils ont pas assez de pièces, ils sont battus, là.
Ils sont dans la merde.
Dans la merde, mais.
Surtout quand on regarde qui est en face, quoi. On peut se dire qu'il y a certains personnages qui servent pas à grand chose. Genre Black Widow. Mais, face à des gens comme Red Hulk,
Ouais, mais bon, ils ont Hope, qui est censé être la plus grande menace qui soit.
Oui. On verra. Bon, on va attaquer l'histoire à proprement parler. La première histoire, c'est donc sur Scarlet Witch. Scarlet Witch qui revient dans la réalité, en quelque sorte, hein, qui redécouvre un petit peu le monde et qui voilà, qui voit qu'elle n'est pas vraiment à sa place. Je crois que je peux pas résumer plus. Je peux pas raconter plus de choses.
Si, on peut dire qu'il y a une scène que t'as bien aimée.
Oui, la dernière scène. D'ailleurs, apparemment, je suis le seul. Ici, à avoir aimé cette
scène.
C'est
un peu poussif. De toute façon, on peut dire même ce qui se passe dedans. Il se passe rien dans ce comic, donc c'est con. Autant le dire, parce que après, les gens vont l'acheter, et franchement, ça vaut pas le coup. Donc, Scarlet Witch, rencontre Vision, et ils discutent, voilà.
Oui, mais c'est pour moi la meilleure scène, quoi. Vision fait le point avec Scarlet Witch, et la détruit, tout simplement.
Ouais.
Il la détruit, il lui dit de se barrer. Mais bon. Elle s'en va en pleurs et lui aussi finit en pleurs.
Ouais, j'ai trouvé ça.
Et un androïde qui pleure, c'est tellement beau et poétique.
J'ai trouvé ça un peu poussif,
un peu poussif, ouais.
C'est peut-être un peu poussif, mais je trouve que c'est une bonne scène. Enfin, elle est plutôt pas mal écrite. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir du Bendis bien écrit sur les Vengeurs.
Oui, c'est vrai que c'est tellement rare en ce moment.
Bah, c'est bien pour ça, quoi. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ah, peut-être qu'il n'a pas tout perdu. Il lui reste peut-être encore un petit peu de choses sous la pédale, peut-être. Et c'est vraiment
peut-être.
Voilà,
c'est un
gros point d'interrogation. En revanche, la deuxième histoire, vous l'avez tous lu dans le preview, vous avez lu la moitié, parce que le preview qui circule dans tous les comics depuis maintenant 3 semaines.
Oh non, depuis des mois même. On a ce fou avec. Ça fait 3 mois au moins qu'on voit Cyclope parler à Hope.
Ah ouais, ça fait si longtemps que ça déjà.
Ah ouais, carrément.
Donc il y a juste quelques pages en plus. Hein. Hope décide de se la jouer Warrior Style et elle va casser la gueule à la Serpent Society toute seule.
Ouais, et le pire de tout, c'est que les pages les plus intéressantes, donc on les a vues puisque voilà, c'est juste inintéressant.
Tout à fait.
Oui. Puis le comportement de Hope, quoi.
Bah oui, ouais, une petite.
Je lui mettrais une grande claque dans sa gueule. Je dirais, écoute, tu vas dans ta chambre, t'es puni. Voilà. Mm. C'est qu'une gamine, hein. Faut commencer que c'est qu'une gamine, quoi. Donc Cyclope, il a qu'à lui mettre une grande tarte, elle va se calmer. Mais comme on est aux États-Unis, on ne bat pas les enfants. Ben, c'est vrai, hein, c'est tellement choquant pour eux de mettre une claque à un enfant.
Ouais, mais c'est quand même Cyclope là qui se prend une bonne claque, mais.
Oui, il se fait un peu défoncer, mais voilà. Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans cette scène, c'est quand même que pour essayer de retenir Hope, on envoie Cyclope avec qui elle ne s'entend pas, elle ne s'est jamais entendue dès le premier jour, alors qu'on a quand même un câble qui est revenu à la vie, hein, en quelque sorte, à la fin d'Extinction, guéri de son virus, grâce à Hope, etc. C'est quand même le mec qui a le plus de connexion avec elle, qu'elle considère comme son père. Bah non, on va pas lui dire, va la raisonner. Non, on envoie Cyclope, qu'elle déteste. Bah oui. Ça montre à quel point c'est crétin.
Ouais.
Et franchement, j'ai vu du meilleur Jason Aaron, hein, surtout sur Wolverine and the X-Men, on en est bien loin.
Ouais.
Moi, je ne lis pas trop l'univers classique, à part justement les gros events, parce que j'aime bien quand même être un peu au courant. Donc House of M, Civil War, tout ça, j'avais bien aimé. Et donc là, je me suis dit, je vais le prendre. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec Hope et compagnie, voir si ça c'est une bonne introduction à l'event. Et voilà, c'est vraiment un numéro zéro dans le sens où on n'apprend pas grand-chose.
Non mais dans le sens, c'est vraiment zéro.
Et on voit pas vraiment quel va être le début de l'event et tout. Ça, il y a pas de rappel vraiment sur Extinction par exemple, ils en parlent pas du tout dedans, donc soit ça c'était soi-disant le prologue, mais là ils en parlent pas. Et bon, et puis après au niveau des menaces qu'on voit dans ce numéro entre MODOK et la Société des Serpents, c'est pas super sexy pour commencer, je trouve, un gros event. Il y a déjà eu des choses qui ont été mieux faites, justement avec House of M et Civil War et compagnie. Mais donc voilà, à mon avis, je pense on peut zapper ça et puis commencer directement avec le suivant qui sera vraiment le début de l'event, quoi. Mais...
Après, j'ai rien de plus à ajouter, moi, parce que je suis entièrement d'accord.
Non, je vais dire franchement, c'est la plus grosse arnaque depuis bien longtemps. Et c'est ce que ça vaut, quoi. C'est marqué sur la couverture, c'est zéro. Ouais.
Mais pourtant ça vaut 4$, les enfants.
Ouais. Non, c'est...
Si vraiment vous êtes un putain de complétiste, quoi.
Non mais il y a rien là-dedans. Il y a rien à
Non,
voir.
franchement, parce que là, faut vouloir se faire mal, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je dis, il y a juste cette scène qui a de la vision et Scarlet Witch qui arrive à, pour moi, sauver un peu le tout, mais enfin sauver entre guillemets. C'est 3 pages. 3 pages sur 30. On peut peut-être, voilà. Je pense qu'on peut s'en passer.
Définitivement.
Tout à fait.
Donc, de l'avis général, un gros pass.
Oui, tout ceci passe aussi.
Ok, très bien, allez, on va passer à la suite. Ce que vous voulez. Là,
On peut peut-être parler de la grosse sortie chez le concurrent maintenant, de la
Oui,
semaine.
parlons d'Aquaman. Hein.
Voilà.
Aquaman numéro 7, donc c'est scénarisé par Geoff Jones et c'est dessiné par Ivan Reis, hein, bien sûr.
Joe Prado à l'ancrage.
Alors, j'avais dit la semaine dernière que je ne lirais plus Geoff Jones. J'avais celui-ci à lire, donc je l'ai lu. Bien m'en a pris. Bien m'en a pris. C'est là que justement ce n'est pas compréhensible qu'il puisse écrire aussi bien ici et aussi mal ailleurs.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi ce numéro m'a beaucoup plu et
Ce numéro a quand même de très gros défauts, et notamment la moitié du comic sans parole.
Ah, ça se lit très très vite. C'est
Pour un, enfin, disons que ce serait un numéro double, j'accepte. Mais là, c'est comme un numéro de 20 pages. Et sur les 20 pages, on n'a même pas 10 pages avec des bulles.
Ça se lit très vite, mais le truc c'est qu'à la fin on a quand même très envie de voir la suite. Donc il y a les deux choses quoi. Il y a l'impatience de connaître la suite et puis il y a la frustration d'avoir lu ça hyper rapidement.
Moi, j'ai essayé de prendre mon temps, mais même en essayant de le prendre, ça n'a pas mis longtemps, quoi. Et je trouve ça dommage. Dommage parce que d'une, c'est bien écrit, mais en même temps,
Alors justement,
est-ce que c'est bien écrit quand on ne juge que sur 10 pages finalement?
ouais, justement, là, faut qu'on introduise un petit peu l'histoire là de ce numéro 7. C'est
C'est le retour de Black Manta.
voilà, c'est ça, et
Je crois.
qui est ultra bien dessiné. Enfin, les dessins d'Ivan Reis sont superbes, l'ancrage aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé que vraiment c'était un très très beau comics au niveau des dessins.
Oui,
Mais
c'est
Ivan
super.
Reis, c'est vraiment l'artiste du moment pour moi.
Ah ouais, et il nous fait un Black Manta, mais vraiment hyper classe. Alors que bon, quand même, le gars, il a un casque qui est pas très très sexy. Et là, il fait peur, quoi, son Black
Ah ouais, il est
Manta.
flippant, hein.
Il est
Flippant à souhait, et puis alors
flippant,
même
il fait
quand il
peur.
l'enlève.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis vraiment beaucoup de charisme comme méchant. Et donc, bah, énormément de mystères, en fait, parce qu'on sait pas trop quel est son passé avec Aquaman. Et bah, c'est ce qu'on va apprendre là dans ce nouvel arc, en fait.
Oui, on se rend compte qu'Aquaman a des choses bizarres qui lui sont arrivées. Mera n'est pas au courant, comme nous d'ailleurs, elle essaye de comprendre. Et on se rend compte que ce fameux professeur qu'il avait rencontré dans le premier arc, finalement, c'est peut-être beaucoup plus long qu'on pouvait penser au départ. Et qu'en plus, on nous fait sous-entendre qu'il a des liens avec Black Manta. Bref, on est
Oui,
un
voilà,
petit
c'est
peu
ça. Et puis, en
perdu.
fait, Aquaman aurait été dans une autre équipe de super-héros avant la Justice League. Et donc, c'est ce qu'on voit sur la couverture, là. C'est avec tout un tas de nouveaux personnages qui ont été créés justement pour cet arc. Et ça va être vraiment intéressant de découvrir chacun quel est leur pouvoir, leur rôle dans la vie d'Aquaman.
Oui, et puis apparemment cette espèce de pacte qu'ils ont de ne pas en parler ou je ne sais pas, enfin c'est grosso modo ce qui est sous-entendu. On a aussi la présence de livres, et notamment les livres dont on parlait déjà dans Justice League.
Oui, tout à fait. Bah, c'était en fait le grand méchant de la Justice League. En fait, il connaissait le professeur Chin. Ça, c'était dans les backups de Justice League. Et sur son livre sur Atlantis, en fait, il avait utilisé le professeur Chin comme connaisseur, en fait, comme personne qu'il interviewait pour son livre. Et donc, du coup, c'est vrai que là, Jones arrive à faire des liens entre Justice League et Aquaman, ce qu'il n'arrive pas à faire avec Green Lantern, ce dont on avait discuté la dernière fois. Mais vraiment, là, il pose plein d'indices sur tout
D'ailleurs,
un background, quoi.
on voit aussi que dans les petites coupures de presse à côté du bouquin, on apprend quelques trucs sur Aquaman.
Voilà, tout à
On
fait.
va pas en parler, on va pas les révéler,
Non,
vous
non,
découvrez
il faut le
l'événement.
lire de toute façon.
Bon, écoutez, bonne nouvelle, hein, je l'avais pris mon comic shop, j'avais pas eu le temps de le lire dans ma pile de comics. Et pendant que vous étiez en train de parler, j'ai eu le temps de le lire. Preuve.
Ça se lit très vite, effectivement.
Preuve que ça se lit très vite et du coup voilà, je viens de voir tout ça. Le truc, c'est que effectivement, hein, on peut dire que Geoff Jones reprend le personnage complètement à la base et du coup, contrairement à Green Lantern, qui est la suite de ce qui se passe depuis je sais pas combien d'années maintenant, 6, 7 ans peut-être. Non, peut-être moins, peut-être plus,
C'est
je sais
plusieurs
plus.
là. Ouais, c'est ça.
Là, Aquaman vraiment repart totalement à neuf, puisque même les nouveaux lecteurs qui ne doivent pas connaître Black Manta, bah là vont pouvoir le découvrir et puis voilà, enfin c'est un truc, une intrigue totalement nouvelle. À mon avis, il va y
Oui.
avoir pas mal de changements sur les origines aussi.
Par
Bah, à
contre,
mon
j'ai
avis,
l'impression.
ça a plus de lien avec Brightest Day. Avec...
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire.
Sur son fils, sur Aqualad et compagnie, je sais pas si ça va être conservé.
Mais c'est bien là le problème, c'est comment ça peut avoir de l'incidence dans Green Lantern et pas dans Aquaman.
Ouais. Mais ouais, mais ça c'est encore le même débat, on va pas revenir dessus. Mais...
Oui, mais c'est vrai
que c'est énervant. Voilà.
Bah, ça montre aussi les faiblesses du scénario et de l'ensemble de l'univers DC.
Ah oui, l'univers
qui était certes trop riche avant, puisqu'on pouvait confondre les différentes les différents reboots, etc. On reviendra là-dessus aussi tout à l'heure dans une autre review, mais il y avait des possibilités d'arriver à mélanger certains éléments, puisque de nouvelles origines, etc. étaient de temps en temps refaites. Mais on avait comme un univers assez riche et on pouvait comprendre les choses. Tout était compréhensible. Là justement, c'est pas le cas. C'est ça qui est dommage, c'est que ça manque de cohérence. Énormément. On est quand même rendu au 7e mois avec 52 titres réguliers. Je vais pas faire le calcul mental de 52 fois 7. Je pense qu'on aurait quand même pu essayer de nous définir un petit peu l'ensemble de la continuité, un minimum.
Ouais. Bon. Après, on peut apprécier les comics indépendamment des autres, mais...
Bien sûr. À ce moment-là, on ne fait pas un univers partagé si s'en servir. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi.
À moins qu'ils nous fassent une pirouette scénaristique vraiment pourrie pour Green Lantern, pour expliquer le fait qu'il y ait tant de différences. Mais parce que le reste, je trouve que c'est quand même pas trop mal au niveau des autres titres. C'est vraiment juste Green Lantern qui ressort comme étant le mouton noir en fait des New 52, quoi.
Enfin, qualitativement parlant,
en tant que fan de Green Lantern, je suis très content d'avoir la suite de tout ce qui s'était passé dans Brightest Day, tout ça. Et c'est vrai que quand on le prend à part, c'est génial. Moi, les Indigo Tribe, tout ça, ça m'intéressait. C'est juste, c'est ce qu'on disait, c'est d'un point de vue univers partagé, c'est plus compliqué.
Moi, pour moi, c'est plus Justice League hein, qui fait tâche que Green Lantern. Parce que Green Lantern est, bon, c'est vrai qu'il y a ce problème d'incohérence entre Green Lantern et Aquaman, mais les deux, qualitativement, sont bons. C'est pour moi Justice League qui est nettement en dessous. Et j'en reviens à mon interrogation de la dernière fois, est-ce vraiment Geoff Johns qui écrit Justice League?
Non, c'est sa grand-mère.
Ça fait quand même un peu scénario d'amateur, quoi. On dirait de la fanfiction. C'est un peu l'impression que ça me donne, quoi. Pas vraiment de développement de personnage, un développement quand il y en a très basique et très cliché, bien loin de ce que l'on peut voir sur Aquaman, là, dans cet épisode. Là, on a un développement de personnage avec vraiment un gros mystère. Dans Green Lantern aussi, même si les personnages sont déjà développés, on les connaît, il arrive quand même à nous sortir des choses intrigantes. Dans Justice League, jusqu'à présent, je les compte sur les doigts d'une seule main, et encore, je n'utilise pas tous les doigts, les choses qui m'ont intrigué.
Ouais, mais tu vois, un nouveau lecteur qui commence avec les New 52, il va plus apprécier Justice League que Green Lantern, où il va être paumé et rien comprendre pourquoi c'est Sinestro qui est Green Lantern et compagnie.
Le problème, c'est de s'intéresser qu'au nouveau lecteur.
Ouais, c'est ça, mais...
Mais là, en tout cas, sur cet Aquaman, avec aussi peu de dialogue qu'un Justice League, voire peut-être même encore moins, je sais pas, il arrive quand même à trouver la petite bonne idée qui fait que voilà, on est scotché et puis on a envie de savoir la suite. Ouais.
Sur les dernières pages, il y a plus de dialogue hein, quand même. Mais c'est vrai que quand on n'a qu'un comics de 20 pages, en avoir 10 sans bulles, c'est quand même désagréable.
Bah, alors,
ça laisse la part belle au dessin, c'est sûr, les dessins sont superbes, le storytelling est assez efficace pour qu'on puisse comprendre l'action relativement sans bulles, mais quand même, on est aussi là pour savoir ce qui se passe, pour comprendre. Et des dessins ne suffisent pas toujours, aussi beaux soient-ils.
Et ils sont très beaux.
Oui, ça c'est clair.
Bon, moi c'est qu'un check-it. Hein. Non, je déconne.
C'est le gros bail de la semaine.
C'est le gros bail de la semaine, pour moi aussi.
Oui, bah voilà, je viens de le lire et j'approuve, c'est ce que j'ai lu de meilleur.
Tu approuves ce message. Alors, juste une petite parenthèse, une petite question, c'est peut-être moi qui ai été passé attentif sur les anciens épisodes, mais j'ai l'impression que le trident d'Aquaman est différent. Je me rappelais pas qu'il avait 5 pointes
dans les derniers
épisodes.
Dans le Justice League, je crois qu'il a pas 5 pointes.
Là, il en a 4.
Mais sinon, dès le début d'Aquaman, je crois qu'il y avait
déjà... C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un trident.
Oui, tout à fait. Mais il me semble que pour Aquaman, la série, il avait déjà dès le départ...
C'est peut-être moi qui n'ai pas été assez attentif. Hein. C'est bien possible, hein, honnêtement. En même temps... Faut être honnête, c'est quand même ce reproche-là que l'on fait sur le manque de bulles et le fait de lire très vite, c'est quand même le reproche que l'on peut faire à Aquaman depuis le numéro 1. Tous les épisodes se lisent en 5 minutes montre en main.
Mais enfin, on avait eu, c'est vrai, un petit peu moins, mais quand même, des épisodes de Green Lantern, je me rappelle de Geoff Johns qui était aussi assez rapide.
En revanche, il arrive à nous intéresser. C'est déjà ça. Donc, bah, ouf, pas la peine de rester plus longtemps là-dessus, hein.
Non,
Le
voilà.
gros bail de la semaine. On passe à la suite et on va parler d'un nouveau numéro 1. On va continuer dans les reviews multiples. Je sais pas pourquoi je prends une voix bizarre quand je dis ça. The New Dead Guardians, un comic dont j'avais déjà parlé il y a 2 semaines, disant que c'était une chose que j'attendais. C'est le premier numéro d'une mini-série en 8. C'est écrit par Dan Abnett en solo.
D'accord.
C'est assez important pour le signaler, puisque d'habitude il est toujours avec son compère Andy Lanning. C'est dessiné par I.N.J. Culbart. Je ne sais pas si ce sont juste des initiales, s'il a des vrais prénoms, s'il se fait appeler ING, c'est original au moins. L'histoire. Le mec essaye de combler les trous. Ça se sent, je rame. L'histoire, c'est que l'on va suivre un. Alors déjà, ça se passe en 1910. Donc c'est vraiment en époque victorienne. On va suivre un flic qui est le dernier représentant de la brigade criminelle. C'est un monde où il n'y a plus de meurtre, plus vraiment, en tout cas, puisque c'est un monde qui était infesté de zombies. Voilà.
Ah oui, d'accord.
C'est. On va peut-être pas trop en révéler, même si, bon, déjà, si vous avez lu un petit peu les avant-premières sur la série, vous êtes déjà un petit peu au courant du plot. C'est bien de le découvrir, c'est mieux de le découvrir, je pense. On y gagne en spontanéité.
Tout à fait.
D'accord, mais alors ça y est, tu recommences à lire des trucs bizarres, quoi. La dernière fois c'était le garde champêtre. Et puis
Alors.
maintenant c'est le flic qui est dans un monde où de toute façon il n'y a pas de meurtre puisque c'est des zombies.
Voilà, enfin, on va dire qu'il y a 3 classes de personnes. On a les zombies.
Les
On a
vampires.
les, voilà, les vampires. Bon, tant pis, on va le révéler, hein, c'est pas grave. Les vampires, et puis on a les autres. C'est-à-dire les gens normaux.
Les
D'accord.
pauvres.
De toute façon, même moi je le sais sans avoir lu de review ou sans
Oui,
avoir.
voilà. Simplement ce qu'on a entendu sur la série auparavant.
Ah mais j'ai rien entendu. J'ai vu le titre, la couverture, et j'ai lu une ligne peut-être, me disant, bah, je sais pas, ça devait être marqué vampire zombie. Voilà.
J'en avais parlé aussi il y a 2 semaines, hein, donc
Ouais.
c'est peut-être ça qui t'est resté en mémoire. Donc l'histoire, c'est surtout que il va y avoir un meurtre, ce qui est bizarre puisqu'il n'y a, il n'y a plus de meurtre dans ce monde-là, puisque la plupart des gens se font tuer par des zombies, les humains ne se tuent plus entre eux, et là il va y avoir un meurtre. Il va devoir enquêter là-dessus, sur un monde où comment tuer un mort, puisque finalement c'est un vampire qui a été tué, qui a été assassiné. Donc, comment arriver à tuer un mort? Et est-ce vraiment un meurtre si on a déjà tué quelqu'un de mort?
Voilà.
Ouais. C'est un petit peu toutes les interrogations. Il y a en plus toute une optique sociale derrière où on voit que les simples gens, ceux qui ne sont ni vampires ni zombies, sont un petit peu au milieu de tout ça et bah, subissent, hein, c'est plutôt la classe pauvre, d'ailleurs. Voilà, enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant. Le seul problème, c'est un petit peu le même défaut que j'avais eu avec Sea of Thieves numéro 1, c'est-à-dire que on en lit un petit peu sur la série pour nous la présenter, pour nous dire bah, il y a de ça 2-3 mois, pour nous dire ah, attention, ça arrive, etc. Le monde est bien amené, on apprend des petites choses sur la création enfin, sur ce qui se passe dans ce monde-là, mais au final, à la fin du premier épisode, j'en sais pas forcément plus que ce que j'avais lu déjà auparavant. Donc, je suis un petit peu mitigé, c'est limite si on peut pas sauter ces premiers épisodes quand on a déjà lu les sollicitations auparavant. Voilà. Toi, tu l'as lu, King Ed, qu'est-ce que tu en penses?
Alors moi je l'ai lu, j'ai pas trop accroché au dessin. Bon après le pitch est intéressant, justement ça, bah, je pense qu'on va s'attendre à une enquête policière dans un monde comme ça complètement qui est complètement déraillé. Après les dialogues sont pas trop mal, c'est l'intro quoi d'une mini-série. C'est le truc, c'est qu'en général moi les mini-séries comme ça j'ai plus tendance à me dire ah, je vais attendre le TPB pour les lire parce que voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut pouvoir tous les lire d'affilée pour vraiment apprécier l'histoire. Là, parce que là, comme tu dis, ça avance assez lentement, et puis en fait, on retrouve juste le pitch qui avait déjà été dévoilé sur Internet et compagnie. Donc bon, on a envie d'en voir plus. L'univers est intéressant, mais
Le truc, c'est que c'est vrai que quand on les lit en TPB, on a tout d'un coup. En même temps, quand on les lit en single, on a cette attente mensuelle où on échafaude toujours
oui, c'est
notre
sûr,
petite
oui.
théorie, etc. Ce que j'ai oublié de préciser quand même, c'est que non seulement c'est un vampire qui est mort, mais il n'a pas été ni empalé, enfin pas par les trucs qui tuent les vampires habituellement. C'est surtout ça
Le
l'intrigue
mystère, ouais,
principale.
c'est ça.
J'avais oublié de préciser ça, quand même. Je pense que c'est assez important. Donc voilà, enfin, c'est assez difficile de se prononcer. Moi, mon attachement à la série fait que je dirais que c'est un bail. Je trouve que c'est un bon premier numéro. En même temps, comme je dis, tout avait déjà été révélé, donc voilà, il y a quand même des bonnes choses à apporter, notamment sur le background. À vous de voir, quoi. À vous de voir, peut-être attendre le numéro 2.
Voilà, et puis oui, après, c'est ça, le style des dessins, c'est assez
Ah
particulier. Faut feuilleter, voir si ça vous plaît. C'est pas comme Walking Dead, toi. C'est pas les mêmes zombies que de Walking Dead, quoi. C'est différent.
donc plus un check-in pour toi?
Ouais, moi, ça serait plus un check-it.
Bon, moi, je sais pas. Le pitch, enfin, ce que j'avais vu comme ça vite fait m'avait intrigué, mais bon. Là, en fait, c'est juste l'histoire du flic, parce que à quoi sert un flic dans un monde pareil, quoi? Enfin, pourquoi il y a encore des flics? Ou bien alors, c'est juste pour les humains, c'est ça?
Mais non, mais c'est bien le truc, c'est bien le problème et c'est bien le paradoxe qu'il a aussi vis-à-vis de son propre chef. Et que finalement, là, on a besoin de lui. Alors, va-t-on nous sortir une explication bizarre au final, comme si finalement peut-être que c'est lui qui aurait tué, je ne sais pas, pour essayer de conserver son job et pas changer? On peut s'attendre à tout.
Ah oui, pourquoi pas.
Peut-être que, au fait, le vampire n'est pas mort.
Et est-ce que tu as une idée enfin, du temps entre chaque parution? Ça va être,
Non,
il y a
c'est
8 issues,
mensuel.
mais c'est mensuel, donc ouais,
Ouais,
ça va
c'est
être assez.
mensuel.
Ok.
Jusqu'à la fin de l'année, quoi.
Ok.
Très bien, bah on va passer à la suite. Benny.
Oui, mais alors peut-être que je vais repartir du coup chez Marvel et vous parler d'un truc en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. À savoir le Avengers 24.1 par Brian Michael Bendis et avec des dessins atroces de Peter Peterson.
Brandon.
Brandon Peterson même, tiens, soyons fous. Mais c'est pas grave, je change son nom justement pour lui rendre service un petit peu. Parce que alors, autant, tu vois, avec l'ancrage, certains dessins pourraient faire penser à du Lenny Francis Yu.
Oh tiens, dis
Non mais quand on voit les personnages de dos, voilà,
Pardon.
je sais pas comment le dire mieux que ça. Ils ont surtout des têtes de vieux. C'est tous des vieillards. Magneto, puisqu'il fait une apparition remarquée, a vraiment une tête, la tête qu'il a dans les films, quoi. C'est vraiment un vieux schnock.
Il a une sale gueule surtout.
Ouais, enfin, il a vraiment une sale
Enfin, je
tête.
suis
Et
en train de
puis,
feuilleter ça en même temps, c'est très laid.
oui, c'est très très moche. Et Vision aussi a une sale tête, ils ont tous des sales têtes, ils ont tous des têtes de vieux de 80 balais. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment niveau dessin, quoi, c'est pas ça. Niveau scénario, c'est du Brian Michael Bendis qui fait du remplissage comme d'habitude. Alors déjà, en plus, on se tape 3 pages au début qui sont tirées du numéro 500, je crois, d'Avengers par David Finch à l'époque, donc il y a 8 ans de ça, où Scarlet Witch pète les plombs. Donc bon bah ça fait du remplissage. Alors en même temps c'est bien parce que ça nous évite 3 pages de plus de Brandon Peterson. Mais d'un point de vue scénario, c'est vraiment super léger, quoi. En fait, c'est Vision qui fait son petit tour et qui veut en apprendre plus sur ce qui est devenu Scarlet Witch. Donc ça se passe juste avant AVX0. Et donc bah voilà, il va voir Miss Hulk, il va voir Magneto. Il va voir un petit peu toutes ces personnes qui ont participé aux événements qui ont conduit à sa mort. Si t'as aimé la petite scène entre Scarlet Witch et Vision, bah peut-être que t'aimeras lire ce numéro, puisque voilà, c'est des petits morceaux de, comment dire, d'émotion. Mais j'ai pas trouvé ça franchement passionnant, quoi. C'est comme la scène dont on parlait tout à l'heure, voilà, c'est assez poussif, et puis il se passe rien d'intéressant, quoi. Je veux dire. On sent qu'on prépare AVX, mais on rentre pas dans le vif du sujet. Et je trouve ça bien dommage, quoi. On doit toujours attendre le numéro 1 d'un event pour vraiment voir des choses intéressantes. Là, il se
Ou
passe rien,
pas.
il n'y a même pas de cliffhanger, quoi. C'est voilà.
Intéressante ou pas, malheureusement.
Oui, enfin voilà, intéressant ou pas, mais en tout cas, il se passe rien de significatif, quoi. Vision est dégoûtée, bon bah ok, d'accord. Nous aussi.
On a quand même Hawkeye et Spider-Man qui se roulent des pelles dans les bois.
Ouais.
Je
Et puis
trouve
alors,
ça.
non mais regarde, regarde par exemple la tête de Steve Rogers, qui a l'air complètement constipé
Ah bah
en
non
bas de page. On a l'impression que c'est Freddy Krueger, voilà, Freddy
mais.
Krueger.
Non mais là il est pas constipé là, c'est juste qu'il a jamais chié de sa vie.
Oui, voilà,
Toute
c'est
sa
ça.
vie. Et il est vieux le père Steve Rogers.
Non, puis regarde, 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 la Wonder, le Spider-Woman en arrière-plan, elle a 80 balais.
Oui,
Elle est
et elle a les cheveux blancs.
Elle a les cheveux blancs,
la
elle a une
colo
tête de
est
vieille.
ratée.
Oui, elle a une tête de vieille. Non, c'est horrible. C'est vraiment, je sais pas, c'est granisoire, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, il s'apprête à lui faire un Granny Fist, hein, le père Rogers.
Voilà.
Voilà, présenter son poing comme ça.
Granola de prince.
C'est Tantemé, en fait, dans le costume de Spider-Man.
C'est ça, oui, je pense que c'est ça. Non, mais enfin, voilà, donc un numéro à éviter si vous n'êtes
pas... Aïe, est gérontophile, putain. Voilà. C'est comme la nouvelle la plus importante de ce numéro, je pense.
Enfin, voilà, donc c'est pas passionnant, c'est un gros pass, encore une fois.
Bah, c'est bien. Oh non, non, mais c'est pas possible, quoi. Ok, très bien. Bon, on va passer à la suite. King Ed.
Ouais, alors je vais aller un peu chez DC. Je vais vous parler de Batman The Dark Knight numéro 7. Donc, voilà, c'est ça. Donc avec Paul Jenkins au scénario, David Finch aussi qui a participé au scénario. Les dessins, c'est David Finch. Et puis à l'ancrage, c'est Richard Friend. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de l'arc. Cet arc qui avait commencé avec le numéro 1, avec l'apparition du petit lapin bizarre.
C'est moi qui participe aussi au scénario.
C'est ça, oui, exactement.
Je me permets juste de te couper une petite seconde pour dire que la meilleure nouvelle, quand même, c'est que c'est pas la fin de l'arc. C'est surtout que c'est sorti à l'heure, pendant 7 mois. Et ça, ouais, c'est quand même un exploit.
C'est assez... Mais bon, il a pas... Au départ, il devait faire, je crois, le scénario sur tous les numéros, et il s'est fait quand même après.
Oui, il a été obligé de se faire aider parce qu'il n'était pas capable d'y arriver, quoi.
Mais bon, donc en fait, on avait déjà eu des réponses dans le numéro 6, un peu sur l'origine de cette fameuse toxine qui transformait tous les super-vilains en énormes musclores. Et on voit qui était derrière tout ça. Donc bon, bah là, après, c'est le combat final, en fait.
C'est quand même la grosse surprise, hein.
Voilà, le combat final, c'est pas la grosse surprise du tout. Et la fin du combat est vraiment expédiée et d'une façon assez bizarre. Moi, j'ai trouvé que il y avait des incohérences au niveau du dessin, mais bon, voilà. Par contre, ce qui est pas trop mal, c'est qu'on sait enfin qui est cette fameuse fille qui se déguise en lapin, donc qui, je pense, aura un rôle dans les prochains arcs de The Dark Knight.
Sauf si c'est comme la première version de Dark Knight où on te présente des personnages dont tu n'entendras plus jamais parler.
C'est tout à fait possible aussi. Bon, après, les dessins, moi, j'aime bien David Finch, donc ça va. Le scénario, donc bof bof. Bon, au final, c'est un arc qui était vraiment pas passionnant. Et c'est un peu David Finch qui avait voulu faire son Hush en faisant venir tous les méchants de Batman, Superman également, Wonder Woman, tout ça. Mais au final, ça fait un gâteau qui s'effondre, quoi. C'est pas très
ça fait un gâteau qui s'effondre. Alors ça, c'est le meilleur image, le meilleur résumé qu'on puisse avoir sorti dans
un soufflet, tu sais.
Ah oui, un soufflet, oui. Ouais, non, mais j'aime bien le gâteau qui s'effondre. J'imaginais la grosse pièce montée qui se casse la gueule.
Donc pour moi, c'est un check-it si on a acheté les précédents, parce que bon, on a envie d'avoir la fin et tout. Et finalement, il y avait quand même des petits points qui étaient intéressants sur cette arc. En particulier, le fait qu'il avait essayé d'être assez cohérent avec les autres titres de l'univers Batman. Ça, c'était pas trop mal. Mais par contre, bon, bah, ça, c'est franchement... Bah, c'est un check-it tendance passe, on va dire.
D'accord, bon bah, ça va être la bonne semaine. je vais continuer avec, je vais rester chez DC avec le Legion Secret Origins numéro 6. Et donc je vais commencer par vous faire un résumé de la Légion à travers les âges. Non, je déconne.
Voilà, la composition, comme la dernière fois avec Jean-Lo.
Oui, c'était une petite, un petit coucou à notre ami Jean-Lo.
Et t'as vu ça, y a Star Trek encore dedans ou...
Non, 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 du tout. Mais bon, voilà, on parle de la Légion, donc forcément, j'ai une pensée pour Jean.
D'accord.
Qui aime beaucoup la Légion.
Les saucissons aussi, rappelons-le. Hein.
Les zénoscopes.
Et je crois qu'il aime bien la gérontophilie aussi. Il devrait bien aimer l'épisode dont on vient de parler.
C'est bien parce que, comme il ne peut pas se défendre.
Non, c'est ce qu'il y a de mieux. Frapper un adversaire à terre qui en plus est muet et a les bras et les jambes coupées, c'est bien.
Frappons tous des paraplégiques, allons-y. Hein. Oh, c'est dur. C'est
la Légion.
C'est scénarisé par Paul Levitz. Avec Chris Baptiste et Mark Dering au dessin. C'est la fin de la mini-série, c'est l'épisode 6, donc sur 6, qui est censé nous représenter La nouvelle origine de la Légion pour la 163e fois, je pense.
Oui, bah vu l'âge de Paul Levitt, c'est encore un vieux, tiens, on parle
Non, mais
que
c'est
de
surtout
vieux.
la 163e fois que ça change.
D'accord, oui.
Non, bon, j'exagère un peu, mais là, il a fallu refaire les origines, puisque nouvel univers. Et je dois dire que bah finalement, c'était une lecture qui était pas si désagréable que ça. Il y a des changements par rapport à l'origine classique. Il y a aussi des choses qui restent les mêmes. Là, on nous montre toute une espèce de conspiration à laquelle serait mêlé R.J. Brand. Finalement que avec tout l'argent qu'il a, R.J. Brand c'est le fondateur de la Légion, hein, ça a toujours été le fondateur de la Légion dans les origines. Et il a utilisé autant son argent pour fonder la Légion, leur construire un quartier général, etc., mais aussi pour soudoyer des membres du Conseil Galactique pour arriver un petit peu à ses fins. On apprend qu'il n'est pas tout blanc, tout blanc. Ça se finit plutôt pas mal sur cette fondation de la Légion. L'équipe est vraiment active. Elle a déjà fait ses preuves vis-à-vis de la Fédération des planètes. Donc non, c'était une relativement bonne lecture. Il y a quelques trucs qui changent, et notamment, on a pu voir ça dans le dernier épisode sur Superman, puisque le concept de la Légion, c'était quand même des gamins qui se sont mis ensemble grâce à R.J. Brand, mais qui ont l'idéal de Superman en mémoire, hein, Superman à travers la légende du XXe siècle, puisque ça se passe au XXIe siècle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas la Légion. Voilà, bon, là il y a des petites choses qui changent par rapport à Superman, hein. Superman n'a pas un aussi grand rôle que ça dans la Légion. Et c'est là aussi pas mal raccord avec ce qui a pu être fait notamment par Grant Morrison sur la jeunesse de Superman. Enfin, la jeunesse, en tout cas les premières apparitions de Superman. Donc ça, c'était bien vu. Voilà.
Il y a quelqu'un qui connaît pas trop la Légion, tu conseilles, donc c'est une bonne introduction.
Ouais, c'est une bonne introduction. Ça peut permettre justement d'arriver à appréhender un minimum la Légion, de reconnaître les personnages principaux. C'est vrai qu'on va voir les trois classiques, hein, plus Brainiac et Phantom Girl aussi.
À la fin de cette mini-série, on peut enchaîner sur le titre Légion des New 52, du coup.
Je pense, moi j'avais lu les deux premiers, mais c'était vraiment il y a un petit moment, je me rappelle plus exactement l'histoire de cette nouvelle série Légion. Mais enfin, normalement, vous avez assez d'informations pour pouvoir reconnaître les personnages facilement, savoir à peu près qui est qui, et donc pouvoir normalement enchaîner sur la série
D'accord.
régulière.
Donc ça
À
peut
peu
être
près
pas mal,
300
quoi.
personnages, ça devrait aller, quoi.
Ouais, mais bah, il y a vraiment les personnages principaux présentés, hein. Plus on avance, plus on a les classiques, hein, comme Cameo Lone Boy, Ultra Boy, etc., ou Triplicate Girl, mais
Bien sûr, bien sûr.
c'est des personnages que l'on connaît, hein. Ce sont des personnages centraux de la Légion, et ils sont relativement bien présentés. En plus, on n'a pas cette origine assez lente, où chaque membre arrive un à un, etc. Là, ils arrivent, ils sont déjà dans l'équipe. Des fois, on nous les montre par deux ou par trois. Il y a toujours cette fameuse le truc qu'on connaît très bien de la Légion, le petite étiquette, le petit bandeau où on a le nom du personnage, enfin son pseudonyme
Ouais, j'ai
de
l'impression qu'il y a que
super-héros,
ça d'ailleurs dans
son
la
nom.
Légion à chaque fois que j'en lis, c'est ça qui est
Il
chiant.
y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnages, c'est sûr, mais voilà, on a ses pouvoirs, on a sa planète d'origine. Ça permet de se repérer facilement. Donc, pour moi, ça sera un bon petit TPB, un TPB à tendance, on va dire check it. Ça permettra de s'y mettre. Pour ceux qui connaissent déjà la Légion, ça vous permettra de voir les nouvelles origines, avec lesquelles il faut raconter maintenant jusqu'à ce qu'on les change.
Dans 6 mois.
Non mais enfin voilà, on peut se poser des questions, c'est vrai qu'avec la Légion, ça change tellement souvent. Il suffit qu'un petit événement dans le passé qui chamboule tout et hop, on change toute la Légion, c'est normal.
Faudrait qu'il fasse une légion un jour qui méprise Superman et qui vénère Zod, par exemple.
Mais qui vénère Zod peut-être pas, mais qui méprise Superman, ça avait déjà été le cas, rappelle-toi, avec l'histoire que nous avait faite Geoff Jones, avec ses terriens totalement xénophobes, ça
Oui.
fait quand même totalement renier l'esprit de Superman, puisque
C'est
pour
vrai.
eux Superman était un alien, donc pas forcément quelqu'un de fréquentable.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, donc un bon check-it pour l'ensemble du TPB, ne prenez pas le 6 si vous n'avez pas lu le reste, ça sert à rien. Attendez le TPB, ça devrait pas trop tarder à sortir, je pense. C'est vraiment sympa.
Ok.
Mais je vais repasser la parole à Mister René Bonny.
Ok, donc je vais vous parler dès à présent de Mighty Thor numéro 12 par Matt Fraction et Giuseppe Camuncoli au dessin.
Quand même.
Oui. Alors,
Qu'est-ce qu'il donne, Giuseppe, sur Thor?
et ben justement, Justement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça se prête beaucoup plus à Thor qu'à Spider-Man. Alors, il a changé son style hein, récemment, Giuseppe, je trouve. C'est, je sais pas, je trouve que c'est un style beaucoup plus John Romita Juniorin. Juniorien, je sais pas comment dire. C'est plus cubique, plus carré. Enfin voilà, c'est différent d'habitude.
En même
Enfin,
temps,
de
faut
ce qui
rappeler quand même qu'il dessine déjà 2 séries par mois, quoi. Donc là, celui-ci, mais il dessine toujours Hellblazer.
Oui, et puis
Donc il faut aussi accélérer, quoi.
oui, puis en plus récemment, donc on le voyait pas mal sur Amazing Spider-Man. Donc bon bah c'est l'épisode qui clôture en fait toute cette saga de Thanarus. En fait,
Littéralement.
c'est le grand final, quoi. C'est la fin de la conspiration, le retour de Thor,
Ah
le.
oui, on savait bien déjà quoi. Thor est mort, mais pas longtemps, hein. Il est mort 6 mois encore une fois, quoi.
Ouais, bah oui,
Le
bah il fallait
personnage ne
qu'il y
meurt que
a.
6 mois, quoi.
Il y a
Ah bah oui.
Avengers qui sort là au cinéma.
Voilà, c'est
Ouais,
ça.
mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule.
C'est ça. Il fallait qu'il revienne pour le film. L'histoire prend fin. Enfin, je trouve d'une bien belle manière, en fait. Le truc, c'est que cet arc, malheureusement, n'a pas duré, alors qu'il était vachement intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue avec Thanarus, à ma grande surprise. Mais par contre, on peut pas dire que l'histoire était pas sympa, quoi. Je veux dire, on passe un bon moment. C'est vraiment un très bon arc de Thor. Mais bah voilà. Enfin, dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps parce qu'il y avait vraiment moyen de faire une histoire, pour une fois justement, de la tirer en longueur, mais que ce soit bien fait, quoi, que ce soit intéressant.
Mais le problème, c'est que dès le numéro où Thanarus est introduit, donc le numéro 7, je crois, on nous montre que Thor est encore là et qu'il va essayer de revenir à la vie. On sait déjà très bien la finalité de l'arc. C'est ça qui est con, c'est que le personnage vient tout juste de mourir dans Fear Itself. Alors déjà que c'était pas bon, mais alors en plus, il n'a aucune conséquence. C'est quand même invraisemblable. Bucky est mort, ah bah en fait non. Thor est mort, ah bah en fait non.
Oui, non, mais
C'est
enfin,
naze, quoi.
c'est surtout Fear Itself, quoi, qui était complètement pourri et totalement inutile.
Si au moins il avait pu garder quelques-unes des conséquences, histoire de vraiment pas l'effacer totalement de la mémoire collective au bout de 6 mois, voilà, non, mais c'est-à-dire qu'ils sabotent même leur propre travail, c'est ça qui est con, quoi.
Bon, enfin, en tout cas, on a eu ça. On a eu cet arc-là de Thor, qui est, à mon sens, l'un des meilleurs arcs de Thor que j'ai lu, bon, bah, depuis le départ de JMS, quoi.
Ok.
Voilà. Donc, plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Cet arc, donc je vais dire un bail, même si c'était pas le plus grand bail de la Terre. Enfin voilà, c'est quand même un bail. Rapidement aussi, FF16. Donc FF16 avec au scénario, bien sûr, Jonathan Hickman. Il y a du Dragota au dessin, pardon, et Steve Epting. Bon, bah alors là, c'est pareil, c'est la fin, c'est l'après grande bataille. On ramasse les morceaux. Non, on fait le point surtout au fait. S'il y a une espèce de réunion de famille, surtout centrée autour de Valeria, qui a pas mal déconné dernièrement. Et donc, bon bah ses parents essayent de remettre les choses au clair avec elle.
C'est le problème d'avoir des gamins trop intelligents, ce sont des sales gosses.
C'est ça. Et en même temps, on fait la connaissance, enfin pas la connaissance, mais on nous présente plutôt la Foundation, c'est-à-dire l'endroit où au fait ils vont tous se réunir.
Qui n'est plus
Leur
dans le
nous.
futur, donc.
Une espèce de base d'opération, voilà.
Tu n'as
Un
pas
petit peu
compris la vanne.
particulier. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas faux. Enfin voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
Un rame sévère ce soir.
Bon, l'épisode est pas super passionnant, tu te dis il va rien se passer. Et puis à la fin, il y a ces pages dessinées par Steve Epting, justement, autour de Doom. Et là, tu te dis, ah oui, d'accord. Ok. Donc à mon avis, Doom va peut-être revenir en force. Très prochainement.
D'accord, mais ça m'étonnerait qu'il revienne pendant VX.
Non, mais je pense que s'il revient après, ça pourrait faire très mal. Donc plutôt une bonne surprise. Moi, pareil, un petit bail, quoi. C'est sympa, j'aime bien, moi.
Ok. King Adam.
Oui, alors là, on va rester chez Marvel. Donc là, plus l'univers Ultimate. Donc avec The Ultimate numéro 8 qui est sorti cette semaine. Toujours Jonathan Hickman au scénario et Ezra Bridger au dessin. Pour moi, c'est un des gros bails aussi de cette semaine, avec toujours des sublimes dessins de Ezra Dribitch. Il y a un combat, en fait, c'est la suite du combat entre Hulk et The Children. Donc c'est toutes ces personnes là qui gravitent autour de Reed Richards et qui ont fondé une sorte de cité du futur. Il y a ça avec en parallèle, on voit Nick Fury qui essaye de convaincre l'autre groupe, The People, donc qui sont des mutants en fait, d'attaquer The Children, on va dire un peu compliqué. Et en plus, il y a un troisième pan du scénario qui est en fait, dans le numéro 7, on a eu l'agent Floom qui est apparu dans The Shield et qui essaye de renverser le pouvoir de Nick Fury, donc en suivant les ordres du président. Et donc on voit ces trois histoires en parallèle. Et voilà, quand on a lu les précédents numéros, c'est vraiment indispensable pour comprendre vers où on va aller. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé, quoi. Enfin, c'est une valeur sûre, The Ultimates, actuellement. Voilà, donc un
Okay.
gros bail.
D'accord. Moi, j'avais pas accroché au début, au fait,
Ouais.
j'avais même pas compris au fait que c'était Reed Richards qui était le grand méchant quand j'avais vu
Bah.
le premier épisode, puisque tout avait été expliqué dans une mini
Ouais,
avant,
c'était
quoi.
dans Fallout en fait que ça avait été expliqué, et du coup c'est vrai que ça sortait un peu de nulle part. Mais bah au fur et à mesure, Hickman il a quand même fait un scénario vraiment bien bien fichu. Et puis il faut dire que c'est là on a vraiment des menaces mais énormes quoi, entre des attaques nucléaires en Amérique du Sud, on a carrément un pays qui a été construit avec des milliers de mutants, et après on a l'Allemagne qui a été détruite par Reed Richards et par The People. Enfin c'est vraiment le bordel partout.
Enfin, il a l'air de se passer des choses, quoi, en 8 épisodes.
Il se passe énormément de choses, et donc là avec l'agent Floom, c'est le mentalo, j'ai vu, de l'univers 616, donc ça pourrait être sympa. Il y a peut-être des histoires aussi de prise de pouvoir du Shield, donc voilà, il a placé plein de
Si
pistes et
je peux me permettre, ça me manque juste un petit peu de sirop de grenadine.
oui c'est ça, tout à fait. Et non, et puis franchement en plus Ezra Dribitch, il nous fait des dessins sublimes. Il y a une je crois la quatrième page, on voit Hulk face à Reed Richards, c'est
J'ai
superbe,
vu la page, ouais.
c'est superbe. Bon bah faut continuer, hein. Là en fait en plus Hickman va s'en aller bientôt du titre, donc on va bientôt avoir la fin de cet arc. Ça sera vraiment une très belle histoire en une douzaine de numéros quoi. Et il y a pas mal d'humour aussi, parce qu'à un moment on voit Autrice Kellion que devient Spider-Woman, et il y a quelque chose qui est vraiment très drôle qui lui arrive, et voilà, c'est sympa. Il y a un peu d'humour aussi.
Elle déchire son collant.
Non mais elle fait des petits commentaires sur justement l'univers Ultimate et c'est marrant. Parce qu'elle se fait chier, elle. Donc, mais faut le voir, c'est très drôle la scène. Donc voilà.
Ok.
Donc ça c'est un bail. Et après une petite review express aussi. Donc chez DC, j'ai lu Teen Titans le numéro 7. Toujours Scott Lobdell au scénario et Brett Booth au dessin. Voilà, c'est une grosse attaque en fait des Teen Titans sur l'organisation Nowhere. Donc cette organisation un peu mystérieuse qui cherche à capturer tous les super-humains teenagers en fait. Et donc en fait ils viennent au secours de Superboy qui avait été capturé et qu'ils étaient en train de torturer. Donc bon bah c'est assez sympathique. Moi j'aime bien la dynamique au sein des Teen Titans avec les nouveaux personnages qui ont été introduits. Les dessins de Brett Booth, bah ça c'est assez spécial, mais bah c'est très détaillé. Il y a beaucoup de choses. Puis bah au final on a enfin la révélation sur qui est derrière cette organisation, et on voit la vraie menace. Donc bon ça avance. Bon, c'est un check-it, parce que voilà, c'est pas non plus une histoire passionnante. Et par contre, le truc, c'est que c'est très 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 dépendant en fait de Superboy, parce qu'il y a des choses qui sont en parallèle. Et donc, si on lit pas Superboy, c'est assez bizarre, parce qu'on manque carrément des bouts d'histoire, quoi. Donc voilà, un check-it, Teen Titans.
Teen Titans,
À la
ok.
nono, Teen Titans.
Ok,
Voilà.
bah on va continuer toujours chez DC avec le Green Lantern New Guardians numéro 7. Tony Bedard au scénario, Tyler Kirkham au dessin, accompagné de Bat pour l'ancrage. On a l'explication sur cet ange qui... Enfin, on a son histoire, voilà. On a ses origines, on comprend pourquoi il est aussi méchant.
C'est le fameux
Il a bu d'orange et d'un
Invictus.
rouge.
Invictus, oui, c'est ça.
Et il fait du rugby?
Je ne sais pas. Il y a peut-être une vanne cachée là.
Oui, c'est le film, tu sais, de Clint Eastwood, qui s'appelait
Ah,
Invictus.
mais oui.
Bah, c'est pas très très bon.
Non, mais oui, j'étais à côté en fait. C'est moi
Non,
qui étais
c'est
à
nos
côté.
références ciné qui sont pas excellentes.
D'accord.
Bon, ben voilà, c'est. Il y a une évolution de la part de l'équipe de ces gardiens. C'est sympa. Bon, ça avance peut-être pas assez vite, on n'a toujours pas fini cet arc. Et on a aussi là une réponse, si on veut, sur le fait que toutes ces bagues sont arrivées dans les mains de Kyle Rayner au premier épisode. Et ben c'est pas de la faute d'Invictus. Donc il va falloir chercher ailleurs. Donc, ce mystère reste entier. On va dire que c'est qu'un check-it, celui-ci. Il est sympa, mais il est juste sympa pour les origines d'Invictus, parce que le reste, voilà, ça avance pas beaucoup, l'arc étant pas fini encore, on est quand même au 7e numéro, ça commence à devenir un petit peu long. Voilà.
D'accord. Mais c'était mieux que Corpse, que t'avais lu la semaine dernière.
C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. L'épisode de Corpse, on peut juste le zapper. Il devrait même pas exister tellement c'est nul.
D'accord. Enfin,
c'est un message. Mon portable. Oui, j'ai un portable de geek et j'ai donc une sonnerie de Star Trek.
J'ai même eu peur.
C'était quelqu'un qui sifflait derrière.
Ouais, moi j'ai eu peur, je me suis dit que c'est ce truc de
ouf. Ce sont les communications de Star Trek original. Voilà.
D'accord, ok.
C'est effrayant.
Et pour la petite info, je suis persuadé que c'est mon frère. Voilà, vous savez tout. C'est super intéressant ce que je raconte. On va rester toujours chez DC avec le Superman numéro 7. La nouvelle équipe créative sur Superman, Dan Jurgens et Keith Giffen, avec
des vieux de la vieille aussi.
Jesús Merino, on va dire au finishes, enfin un peu à l'ancrage, puisque une partie des dessins est faite par Dan Jurgens et c'est Jesús Merino qui finit, mais je pense que ce n'est pas juste de l'ancrage.
Ah bon, c'est bizarre ça.
Mais c'est vrai que tu sais, c'est vraiment des roughs qu'a dû faire Dan Jurgens, c'est que une bonne partie du dessin est assurée par Jesús Merino.
D'accord.
Bah c'est ce qu'on nous avait promis, hein. Superman va se retrouver face à Hellspont, le méchant démonite de l'univers Wildstorm qu'on essaye de nous imposer. Et donc la petite chose marrante, puisque tu en parlais dans ton dossier, King Ed.
Ah, j'ai pas lu de Superman, moi. Donc,
eh ben oui, mais justement, rappelle-toi de ce symbole avec une tête
oui.
de mort.
Ah, d'accord, avec les...
Eh bien, nous le voyons dans le palais d'Hellspont.
D'accord, ok. Ah ben, faudra que je le lise.
Voilà. C'est juste ça. Bon, alors, on a une scène assez drôle d'un Clark Kent complètement dépassé par l'événement au journal. Ça vous fera pas non plus hurler de rire. Hein. Si ça vous tire un petit sourire, c'est déjà pas mal. Et puis on va avoir un Superman qui va se retrouver face à un choix assez bizarre. Et surtout une scène, alors j'avais peut-être raté, parce que c'est vrai que j'ai raté quelques épisodes du run de Perez, j'ai pas encore eu le temps de les lire, faut dire qu'il faut se caler un moment de 2 heures pour lire un épisode de Perez.
Prendre une après-midi et puis décacher d'aspirine.
Est-ce qu'on avait déjà vu comment Superman enfile son costume ?
Non.
Eh bien là vous aurez la réponse. Et je dois dire que c'est quand même sacrément bizarre.
Ça, j'ai vu ça sur un site de news comics, et c'est vrai que c'est assez bizarre.
C'est pas un truc à la Chevalier du Zodiac
Non, c'est un peu comme Iron Man, enfin, on va pas dire.
Ouais, voilà. Voilà, moi, t'as dû comprendre, je pense, Oui. Bonnie. Donc, c'est bizarre. Bon, c'est pas mal. C'est un check-it, hein, pas plus, franchement. Et je vais donc te repasser la parole, Bonnie.
Oui, alors moi, justement, j'ai craqué il y a quelques temps et j'ai commencé à suivre Walking Dead en VO.
Oh là, alors je vais être obligé de couper.
Alors je vais essayer de faire un minimum de spoilers. Comment tourner ça ? Donc Walking Dead 95, Robert Kirkman est au scénario, bien sûr, Charlie Adler au dessin. Bon, alors ça, c'est est-il besoin de le dire en plus ? C'est toujours pareil. Rick arrive en un certain lieu et dans ce lieu-là, au début tout va bien.
D'accord. Et il fait des choses.
Il est avec des gens que l'on connaît, hein, des gens du cast de Walking Dead. Il arrive dans un certain lieu, donc il découvre en fait un nouvel environnement, de prime abord très sympathique. Il est étonné. Et puis d'un seul coup, il se passe un truc, et tout se barre en couilles sévères. Voilà. Et quand je dis en couilles, c'est vraiment des grosses couilles d'éléphant. Hein.
C'est la montée en puissance pour aller jusqu'au numéro 100, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est tout ce que je peux en dire pour ne pas spoiler. C'est-à-dire là, j'ai rien spoilé du tout.
C'est un mélange d'une review Morning Glories à la Sam et une review de Claire en même temps. C'est mélange des deux, c'est-à-dire que c'est une review où on ne comprend pas tout.
Non, mais
qui va dans un endroit et qui fait des choses et qui se passe un truc, voilà. Et que voilà. C'est bien au final. C'est ça.
Qu'au début, c'est assez idyllique, c'est plein d'espoir. Et puis après, c'est D'un seul coup, c'est la catastrophe, c'est le cauchemar. Le cauchemar recommence. Mais que se passe-t-il exactement? Eh bien, il faudra le découvrir en français dans quelques mois. Et puis, bah voilà, hein, pour ceux qui lisent la VO, l'épisode 100 approche et ça se sent. Voilà.
Ok. Bah, ça donne envie, hein.
Et c'est un grand bail, bien sûr.
D'accord. Allez, pour terminer, deux petits Marvel très rapidement. Le Avenging Spider-Man numéro 5. Alors oui, je l'ai lu, j'avais dit que j'arrêterais. Mais bon, faut dire que le prochain numéro fait partie du crossover avec Daredevil, dont je vais parler juste après. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y aura déjà des éléments dans ce numéro 5 d'Avenging Spider-Man. Bien non. Tout simplement pas. C'est dommage. C'est Zeb Wells au scénario et Lainil Fransiu au dessin encré par Jerry Allen Guyan. Déjà, c'est sympa de voir du Fransiu, hein, faut le dire.
Ouais, toujours.
L'histoire est très basique, très simple, mais c'est le meilleur épisode d'Avenging Spider-Man que j'ai eu jusqu'à présent. Bon, en même temps, c'est que le cinquième. Mais voilà, l'histoire, c'est que il découvre une bande dessinée qu'avait faite Cap quand il était tout petit, vraiment gamin. Et cette planche va être vendue aux enchères. Et donc, Peter Parker, voyant ça, se dit « Ah, oh, mais en fait, Cap est un gros nerd, lui aussi. » Et donc, il va essayer de traîner avec Cap. Mais c'est un boulet, hein, c'est Peter Parker, on le sait. Donc, c'est un vrai boulet. C'est vraiment bien écrit. On a un Spider-Man qui est vraiment crétin, qui passe son temps à être la honte des Avengers. D'ailleurs, tous les autres Avengers ont honte de lui.
Ils vont tous le frapper à la fin de l'épisode. Et ça
Bah,
se termine par un véritable massacre. Il est démembré sur la place publique. Tout le monde rigole.
si seulement. Malheureusement, bon, c'est enfin malheureusement et heureusement, c'est bourré de bons sentiments, c'est gentillet quoi. C'est-à-dire que finalement, Peter Parker va arriver à faire la morale à Cap en disant, mais faut pas oublier ses rêves de quand on était gosse et voilà.
Putain. Et non, franchement, ça me donne pas du tout envie. Hein.
Franchement, ça se lit. Est-ce que ça s'achète?
C'est un
Voilà.
one shot un
Ça se voit
peu.
le sur l'étalage.
Non mais voilà, c'est bon, c'est franchement pas, c'est pas top. Mais c'est comme je dis, c'est le moins pire des épisodes que j'ai pu lire. C'est là où il y avait la meilleure écriture, je trouve, parce que Peter Parker est bien écrit dans ses vannes.
Je
Ses
dirais
vannes
même,
sont
c'est le
drôles.
plus mieux. Hein. Plus mieux.
Non, mais ces vannes sont quand même drôles. Voilà, c'est du bon humour de Spider-Man.
Contrairement au nôtre.
Bah, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les 4 premiers épisodes.
Ou contrairement à ce qu'on a pu entendre depuis quelques minutes ici.
Donc on va dire que c'est qu'un Chiquita à tendance passe. Voilà. Parce que franchement, ça n'apporte rien. On finit par donc le Daredevil numéro 10. Mark Waid est au scénario, Paolo Rivera est au dessin. C'est la fin de cette histoire avec Mole-Man qui vole des cadavres.
Ah oui.
Donc toujours avec les molloïdes.
Toujours avec les molloïdes. Quoique, on en voit deux dodos. C'est tout. Ah non, si on en voit d'autres qui tombent dans la piscine à un moment. Mais c'est tout. Enfin voilà, franchement, on n'en voit quasiment pas. La plupart de l'épisode, c'est ni plus ni moins qu'une confrontation entre Mole-Man et Daredevil. Une confrontation qui laisse un goût assez amer dans la bouche finalement, parce que déjà il y a des cadavres. Attention, humour. Réactif les gens, c'est dingue.
Oui, ha
Oh. Vous êtes trop réactifs, c'est fou. Non, c'est surtout que les thèmes abordés sont ambigus. Je vais pas en dire plus, je vais pas révéler le plot parce qu'on comprend exactement pourquoi il avait volé ses cadavres. Je préfère vous laisser découvrir ça. L'histoire se termine par les prémices du futur crossover dont on nous a parlé. Avec Black Cat qui allait voler le disque dans le dernier épisode, le fameux
Qui
disque, on se souvient des
a
infos,
volé, a volé, a volé. C'est toute l'histoire de l'épisode.
qui a laissé un message à Matt Murdock vis-à-vis de ce méfait. Voilà. Je n'en dirai pas plus non plus. Donc, The Omega Effect commence le mois prochain. Avenging Spider-Man numéro 6, Punisher numéro 10 et Daredevil numéro 11, ce sont les trois parties de cet event. À
Et c'est
savoir
le grand
qu'on
retour
aura...
d'Omega Red. Wouh!
à savoir qu'on aura un Daredevil 10.1 entre les deux. Bah là, ce Daredevil-là, c'est un bail, hein, comme le reste de la série. On attend surtout quand même ce crossover, puisque cette histoire du disque est quand même très intéressante. Et, on nous tease avec ça depuis plusieurs mois et on a vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller. Voilà.
Jusqu'où ça va aller.
Oui, j'ai dérapé, bon merde. Je pensais que ça passerait inaperçu, putain.
Et non. Non, jamais.
Donc voilà, on termine
Je lis une question. Jusqu'où ça va aller? Faudrait que quelqu'un s'appelle Jusqu'où. Ce sera ton nouveau surnom qui gagne.
Ah non, s'il vous plaît.
Si, si, tu t'appelleras Chupouille maintenant.
Oh non. Quelle horreur.
Oh putain. Donc pour terminer cette semaine, nous avons reçu un mail de Jordan. Jordan qui nous demande, enfin, je vais vous lire son mail directement.
Bon, c'est lui qu'on appellera juste couille, hein, et puis voilà.
On va croire qu'on est bourré à chaque fin de podcast, c'est incroyable. Bonsoir à toute l'équipe de Comic City. Avant tout, alors déjà, je tiens à préciser que c'est bien joué d'avoir dit bonsoir étant donné que nous enregistrons tous les vendredis soirs.
Ouais, déjà, bravo.
C'est vrai, il a bien noté,
le concept. Et oui, et ça c'est très important.
Il a bien assimilé.
J'essaye de finir, c'est pas possible. Avant tout, je voudrais vous remercier pour ces podcasts très agréables à écouter. C'est un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine. Mais seulement voilà, il arrive souvent que vos comics weekly éveillent ma curiosité, mais je ne sais pas où trouver de comics VO. Certes, il y a le digital, mais c'est toujours plus agréable en papier. Si jamais vous savez où l'on peut trouver des comics VO sur Bordeaux, j'apprécierais de le savoir. Car les frais de port en commandant sur le net, ça fait un peu cher pour deux ou trois ouvrages. Continuez comme ça et merci à vous. Y a-t-il des gens de Bordeaux?
Eh ben oui, justement.
Ah, oh, c'est génial. Alors, Kinghead, tu me sauves la vie puisque j'avais fait quelques recherches pendant qu'on enregistrait et j'avais trouvé deux trois adresses, mais je suis
alors,
pas sûr qu'elles soient encore
alors,
valides.
Le truc, c'est que je sais pas si elles sont encore très à jour, mais y avait un comic shop qui vend aussi du manga, qui est
Et
pas très loin de la rue Sainte-Catherine, qui s'appelle
du jeu de
l'Antre
rôle.
du Dragon, je crois.
L'Antre du Dragon, c'était génial. J'y ai passé beaucoup de temps
Vous
quand
trouvez
j'allais
ça?
sur Bordeaux.
Ah oui, d'accord.
C'était génial. Et avant même, il y a de ça maintenant 15 ans, il y avait un super comic shop, un tout petit qui s'appelait Clatou, qui était dans une rue parallèle à la rue Sainte-Catherine aussi, et qui était mais vraiment un petit bijou où on trouvait des perles rares là-dedans. Et ce truc a fermé il y a de ça maintenant 15 ans, donc.
Et moi j'ai connu l'antre du dragon, enfin je suis rentré dans l'antre du dragon et... en 2003 je crois, si je dis pas de bêtises.
Ah, moi,
mais
je
alors
suis pas allé
le
depuis
truc
moins
c'est je
dix
sais
ans.
pas s'il est encore ouvert l'antre du dragon, ça fait longtemps que je suis pas passé devant et
J'ai
mais
entendu dire que c'était que d'ailleurs en plus au niveau VO il n'y avait plus grand chose.
bah, je sais qu'il avait encore les catalogues il y a pas très longtemps des sorties Marvel et DC pour le New 52 et donc on pouvait réserver les volumes à l'avance, mais bon, fallait s'y prendre assez à l'avance en fait, genre 3 ou 4 mois avant, il fallait dire qu'on était intéressé par telle ou telle sortie.
Mais attendez, il n'y a pas un album chez à Bordeaux?
Alors, il y a un album aussi à Bordeaux, mais je sais pas s'ils font de la VO. ils font du vélo.
J'ai voulu, je me suis dit, ça va passer. Je vais pas, je vais essayer de pas rigoler. Je vais essayer de me retenir, mais finalement. Non.
Si, si, moi j'imagine trop les gens de chez Album faire du vélo, parce que quelquefois tu demandes un renseignement, puis. Les mecs savent tellement peu quelquefois de quoi tu parles que t'as envie de leur dire mais faites du vélo, enfin faites autre chose quoi.
Alors faudrait qu'on pose la question sinon à Kiwi, mais moi je suis plus digital en fait, donc c'est quand même c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour la
Je
vélo.
crois savoir d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que Kiwi est actuellement en stage chez Album.
Ah bon?
Mais oui,
J'y suis
là
passé
maintenant,
ce
là.
matin et je ne l'ai pas vu.
Ben, c'était
Ah
peut-être
ben
son jour de
en plus,
repos.
en plus il sèche. Il vient déjà pas au boulot, putain, mais quel
Bah
enfance
ouais,
qu'il
c'est ça. Je suis venu chercher mes comics urbanes du mois là, et je l'ai pas vu. Mais bon.
Ah bah tu pourras le taper alors.
Si je t'avais posé la question avant, tu aurais pu vérifier s'il y avait de la VO.
Mais
J'y ai pas pensé.
c'est possible, mais voilà, moi comme j'achète en digital, c'est vrai que c'est le plus simple en fait. Puis bon, faut dire que j'ai une tablette, c'est pour ça aussi. C'est vrai que
Ça aide, hein.
ça aide un peu. Mais bah après, sinon il y a quand même aussi, on peut en par correspondance, on peut. On n'est pas obligé d'aller à Bordeaux, on peut
Bah
prendre.
le problème, c'est surtout les frais de port hein,
Ouais, c'est
pour
ça, ouais.
Jordan. Et c'est vrai que les frais de port reviennent cher à la longue. Donc Album, c'est 162 rue Sainte-Catherine. Donc bah, la rue principale de Bordeaux. Hein,
Ils ont
la
un blog
piétonne.
qui est à jour assez
Qui
rapidement, celui
s'appelle
de.
Album Bordeaux Comics tout
Voilà, c'est ça.
attaché.blogspot.fr.
Et c'est très pratique parce qu'on a les sorties, enfin on sait si on peut aller chercher nos comics dès le matin. Voilà, c'est mis à jour très fréquemment.
Mais je me demande si c'est pas possible de passer des commandes VO via album ou si ils font même plus.
C'est possible en fait, il faudrait se renseigner.
En même temps, moi habitant dans un petit trou de Pecno, je n'ai jamais mis les pieds dans un album. Donc voilà,
Ah,
je ne sais
putain,
même
mais
pas
alors
comment
moi
ça.
le nombre de fois où je suis allé chez Album, mais je sais pas, ça se compte en centaines maintenant peut-être.
D'accord. Mais
Voilà.
non, mais moi je suis encore vierge d'un album.
Alors ils vendent des issues américaines, mais bon c'est des vieux trucs, ils en ont très peu et c'est à mon avis c'est des vieux stocks. Je sais pas, moi j'ai jamais vu du neuf VO en rayon, quoi.
Ben, peut-être en font-ils sur commande.
Voilà, c'est ça, peut-être sur commande. Il faut demander sur le blog ou sur leur page Facebook et
Ou se rendre directement au album, hein, s'il est
Voilà,
sur
c'est
Bordeaux,
ça. S'il
peut-être.
est sur Bordeaux, ce sera plus simple. Et
Donc, l'antre du dragon, je vais essayer de retrouver l'adresse si c'est bien toujours au même endroit.
Et si ça existe toujours, surtout,
Ah,
j'aimerais.
y a 3 mois, c'était ouvert. J'y suis passé, je m'étais renseigné parce que je voulais acheter des Ultimates en version papier. Et il avait le catalogue à ce moment-là, mais.
Oui, mais la semaine dernière, le dragon a rôté et le magasin a brûlé. Voilà.
C'est dans la rue du Loup, exactement, l'antre des dragons, voilà.
Ok.
Bon, bah,
Donc je
c'est
trouve ça très beau quand même, l'antre des dragons qui se trouve dans la rue du Loup. Je trouve ça magique.
Ben
C'est
oui.
un petit peu fable.
Voilà, c'est ça. Mais pour acheter des comics, c'est quand même l'endroit rêvé.
Pas
Oh,
insister
les mecs
un
qui rament.
Oh mais désolé, on t'aide pas beaucoup en plus là.
Donc, bah, j'espère qu'on aura pu répondre à, au moins un petit peu à ta question, Jordan. C'est vrai que on connaît pas forcément toutes les villes de France, malheureusement.
Bon là, il est désespéré, au fait, il va se mettre à la VF, je pense.
Mais ouais, certains trucs sortent en VF, des fois c'est plus facile, et puis même c'est surtout moins cher. Maintenant il y a le délai d'attente aussi qui des fois peut être handicapant. On a envie d'avoir le truc tout de suite, on n'a pas forcément envie d'attendre 8, 10 mois, 1 an. Donc je peux comprendre. J'espère que l'antre du dragon est toujours ouvert. Moi c'est vrai qu'à l'époque où j'y allais, le magasin était vraiment sympa. On avait vraiment, c'était l'univers geek par excellence. On avait du comics, du manga, du jeu de rôle, de la science-fiction, on avait du jeu de plateau, on avait de tout. Et des statuettes, enfin bien
Alors,
évidemment, tout ça.
je viens de tomber sur, là c'est direct, hein, je viens de tomber sur un forum qui parle du magasin et la dernière personne dit vient de fermer, daté du 25 février 2012, donc
Ben voilà, c'est le dragon, je t'avais dit. Il a
donc
carotté, il a foutu le feu et puis c'est fini.
c'est à vérifier, mais peut-être que cette boutique a fermé et du coup il y
Juste au
aurait.
moment, juste, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il nous a posé la question par mail, parce que.
Ah, c'est possible.
Peut-être qu'il avait plus d'autre choix du coup et.
Possible. Bah, s'il y a des auditeurs qui sont de Bordeaux et qui ont des adresses pour acheter des comics en VO, bah, qu'ils n'hésitent pas à les partager avec nous dans les commentaires, ça fera plaisir à Jordan et puis ça aidera d'autres sûrement peut-être qui habitent dans le coin et qui ne connaissent peut-être pas ces adresses. Partagez vos bons plans sur Comic City. T'as vu comment c'est magnifique, on dirait je sais pas les émissions de
Comic City,
service, comment on
c'est une
appelle
grande famille,
ça.
hein. C'est une grande famille avec nos auditeurs.
Ouais. C'est les émissions qu'on voit sur M6 en Access Prime Time. Je ne sais même plus comment ça. 100%, je sais pas quoi.
Je sais
Toutes
pas
ces
où t'es
daubes
parti, mais je ne te rejoindrai pas.
là.
On dirait les émissions que je ne regrette pas, surtout.
Oui, bah oui, moi non plus, je ne regarde jamais. Hein. Bref, je crois que c'est tout, hein, on va s'arrêter là, hein, surtout.
Sur ces
Pas
bonnes
plus, pas
nouvelles.
plus. Va
À chaque fois, je remets le répondeur sur le.
falloir qu'on t'explique l'histoire du répondeur en off. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly. D'ici là, vous nous retrouvez comme d'habitude sur Facebook. N'hésitez pas à passer. Il y a pas mal de petites infos que l'on met pas forcément sur le site, et notamment les images de Nono tous les jours. Et ce ne sont pas des images de Nono à poil, hein, je précise, pour les gens qui voudraient voir le corps de Nono. Mais peut-être que s'il y a de la demande, on sait jamais. Peut-être Nono nous prendra des photos et publiera des photos de lui nu
De
sur
lui tout
Facebook.
nu, juste avec son chapeau sur la tête.
Sur la tête ou ailleurs. Peut-être pour cacher des parties intimes. Je sais pas où on s'en va là. Franchement, j'essaye, mais je sais pas où on est parti. Vous nous retrouvez aussi bien sûr sur Twitter. Comme d'habitude, tous les anciens épisodes sont sur iTunes, à votre disposition et gratuitement, bien évidemment. J'en profite parce que je viens d'oublier quelque chose. J'avais dit que j'en parlerais. Le Facebook. Un petit changement sur la page Facebook. Depuis hier, on a changé quelques paramètres. Vous ne pouvez plus poster de messages sur la page principale de Comic City sur Facebook parce qu'on a eu plusieurs fois du spam. Ce qui a tendance à nous casser les couilles pour rester poli et surtout n'essayer
Surtout
d'éviter de
clair.
s'énerver. Donc, ce qu'on a fait, c'est que bah, on a interdit la publication à part à nous, en fait, membres du staff de Comic City. Mais en revanche, si jamais vous voulez partager un bon plan, comme c'est déjà arrivé, hein, on a déjà eu des auditeurs qui viennent nous dire, ah, vous avez peut-être pas vu cette news, etc. Ce sont des choses que l'on apprécie beaucoup. Vous pouvez nous envoyer un message, parce que depuis que Facebook a changé et donc est passé avec cette nouvelle page, cette nouvelle façon-là, le timeline, etc. On peut envoyer des messages aux pages. Donc, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message aussi sur Facebook, hein, comme vous auriez publié un petit message, parce que vous ne pouvez plus le faire.
Au fait,
Est-ce
tu
que
peux
c'était
faire du
assez
Twitter
clair?
sur Facebook, c'est ça?
Non, non du tout.
D'accord, merci.
Non,
C'était
non, tu
l'interrogation de la
pouvais,
soirée, je pense.
tu
Ça
pouvais
fait
poster
longtemps
un
qu'on n'a pas
message.
parlé de la machine à DD.
Oui,
Voilà,
là j'ai eu du mal à revenir. Tu me permets, je vais juste finir le petit tour, donc le iTunes aussi, hein, où vous retrouvez tous les anciens épisodes. Pod Radio, on est toujours diffusé bien sûr, et Pod Radio vient de changer leur site. Et ils ont fait une catégorie bande dessinée, comics, etc. Il y a plusieurs podcasts, il y a notamment bah, le nôtre bien sûr, mais il y a aussi le podcast du One Eye Club. Il y en a d'autres à découvrir, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et découvrir d'autres podcasts qui vous intéresseraient, que ce soit comics ou autres, hein, bien évidemment. Et puis bon, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des mails comme l'a fait Jordan, à l'adresse c'est podcast@comiccity.fr. Et enfin, pour réagir à tout ça, vous avez des commentaires sur le site où il y a aussi plein d'autres articles et plein d'autres belles choses à se mettre sous les dents. Et j'ai fini. Et
Et
donc
à
la
bientôt
machine
tout
à
le
DD.
monde.
Tu nous parlais de la machine à DD, Benny.
Non, ben c'est tout. Voilà.
Eh bien, elle est
J'ai plus
en
envie.
réparation
C'était tout
chez
à l'heure, là maintenant, c'est fini. Voilà, maintenant je vais tout en je vais me mettre tout nu puis je vais courir partout.
D'accord, mais pour te préciser, elle est en réparation chez le garagiste qui s'appelle Emmett Brown. Je pense qu'il est parti en voyage.
D'accord.
D'accord.
C'est avec l'agent Lauriane alors.
Mais oui, c'est tout n'est qu'un éternel
Tout est lié,
méli-mélo,
tout est lié, tout est lié.
n'est qu'un méli-mélo de choses qui s'entremêlent et s'entrecroisent sans jamais ne se rencontrer. Point.
Waouh, c'est beau.
C'est beau. C'est vraiment pour terminer en apothéose. J'essaye de battre la conclue pourrie que l'on avait fait sur le Comic City, hein, Benny. Il est
Oui.
mort. Donc il est en train de se déshabiller là, je pense.
Oui, voilà, j'en suis aux chaussettes, allez hop.
Mais non, j'essaye de la battre, mais là c'est vrai que vraiment, ça va être difficile. Là. Cette conclue était vraiment pourrie. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine peut-être, si vous êtes encore là. Et d'ici là, ben,
Bah,
lisez des
lisez bien,
comics. Ouais,
amusez-vous.
lisez des comics, on a que ça à vous dire. Un petit mot, Benny, peut-être.
Peut-être.
Merci. À la semaine prochaine, tout le monde.